Chapitre 18. La tentation. Le lendemain, de grand matin, une mule et un guide vinrent s'arrêter à la porte de la villa de Chromatius. On hissa sur la mule les deux sacs de moyenne grandeur qui contenaient tout l'avoir connu de Torquatus. De nombreux amis s'étaient levés pour le voir avant son départ et échanger avec lui le baiser de paix. Puis se sont baisés ne pas ressembler au baiser de Gethsemane. Les uns murmuraient à son oreille de douces et affectueuses paroles, l'exhortant à demeurer fidèles aux grâces qu'il avait reçues, et il promettait vivement et sans doute avec sincérité qu'il y serait fidèle. D'autres, connaissant sa pauvreté, lui mettaient un petit présent dans la main en lui conseillant d'éviter ses anciennes relations. Polycarpe, le directeur de la communauté, l'appela près de lui et l'exhorta tout bas, avec des paroles ferventes et d'abondantes larmes, en lui demandant de réformer les irrégularités, encore peu gravées sans doute, mais menaçantes pour l'avenir, qu'on apercevait dans sa conduite, de veiller sur la légèreté et de cultiver avec plus de soin les vertus chrétiennes. Torquatus, pleurant aussi, promit l'obéissance et, s'agenouillant, baisa la main du bon prêtre qui lui donna sa bénédiction, puis lui remit des lettres de recommandation pour son voyage et une petite somme d'argent pour ses dépenses qui devait être modeste. Tout étant prêt, le dernier adieu échangé, le dernier bon souhait exprimé, Torquatus monta sur sa mule que le guide conduisit à la bride et ils s'acheminèrent lentement vers la longue avenue qui conduisait à la porte. Tout le monde était depuis longtemps rentré dans la maison et Chromatius, debout à la porte, regardait encore, la larme à l'œil, dans la direction que le voyageur avait prise. Il y avait dans son regard quelque chose de la tendresse inquiète du regard d'adieu que le père de l'enfant prodigue jetait sur son fils. Comme la villa n'était pas sur la grande route, la modeste monture avait été seulement louée pour conduire le voyageur à Fundi, à présent Fonde, qui était le point le plus rapproché. Là, il devait trouver un autre moyen de transport pour continuer sa route. La bourse de Fabiola le mettait tout à fait à l'aise sur ce point. La route que le voyageur parcourait était aussi belle que variée. Tantôt, elle suivait les bords charmants du Lyris, parsemés de villas et de chaumières. Tantôt, elle plongeait dans des ravins en miniature sur les frontières des Apennins, dont les roches formaient comme une muraille tapissée de myrtes, d'aloès et de vignes vierges, au milieu desquelles des chèvres blanches broutaient et paraissaient à l'œil charmé du voyageur des taches de neige sur la verdure. Puis, sous les pas des chevaux, s'échappait, jaillissant et bondissant, un ruisseau limpide qui, stimulant le bruit d'un torrent descendu de la montagne, allait dans sa course folle, franchissant deux pierres à la fois, comme s'il s'enorgueillissait de former ainsi une cascade, puis redescendait un abîme qu'une feuille d'acanthe aurait caché. La route s'élargissait, on jouissait alors de la vue des vastes plaines de la Campanie, semblables à des jardins, et la baie d'azur de Gaète apparaissait toute parsemée de blanches voiles qu'on pouvait prendre de loin pour une troupe d'oiseaux aquatiques dont les ailes brillantes venaient se baigner et se jouer sur la surface d'un lac. Quelles étaient les pensées du voyageur au milieu de ces scènes mobiles où un nouvel acte du drame de sa vie allait s'accomplir? Cette vue splendide le divertissait-elle? La beauté du spectacle élevait-elle son âme à des pensées d'en haut ou cette vue produisait-elle sur lui un effet opposé? Son œil semblait à peine remarquer le tableau, son regard le précédant au loin s'enfonçait déjà sous les portiques sombres et dans les rues bruyantes de la capitale. Les jardins poudreux et les fontaines artificielles, les bancs de marbre et les voûtes ornées de peinture semblaient plus magnifiques à son regard que les pampres dorées de l'automne, les ruisseaux limpides, l'océan empourpré et l'azur du ciel. Sa pensée ne se tournait pas vers les crimes honteux dont la capitale était le théâtre. Il ne songeait ni au luxe, ni aux pratiques impies, ni aux profanations, ni aux calomnies, ni aux mensonges, aux trahisons, aux ignominies, que Rome contenait dans son sein. Oh non, un chrétien n'avait rien à faire avec ses turpitudes. Pourtant, son esprit distrait l'emportait quelquefois dans une salle obscure des thermes. Et là, autour d'une table, il voyait des joueurs sans frein jeter violemment leurs dés. Il sentait encore comme l'aiguillon d'une passion longtemps comprimée se remuer dans sa poitrine. Mais un doux regard, semblable à celui de Polycarpe, se levait sur lui et le rappelait à la réalité. Il se croyait quelquefois aussi transporté près d'une table d'érable où circulaient des gobelets d'or remplis de vin de Falerne, et les propos licencieux que l'ivresse fait naître circulaient avec les coupes pleines, quand la figure sévère de Chromatius lui apparaissait et son regard plein de reproches faisait évanouir l'orgie. Le voyageur retournait simplement à la cité impériale et aux amusements honnêtes qu'on y goûte. Il allait retrouver les promenades, la musique, les peintures, la magnificence, la beauté de la ville éternelle. Il ne songeait pas que tous ces plaisirs n'étaient que des accessoires pour une masse immense d'êtres humains, toujours haletants, dont ils enflammaient les passions, dont ils excitaient les désirs en stimulant leur ambition, en affaiblissant leurs aspirations élevées et en énervant les esprits et les cœurs. Pauvre ignorant, il pensait être assez fort pour traverser ce feu sans être atteint. Un prudent papillon, il voulait voler dans la flamme sans songer qu'il y brûlerait ses ailes. Tout entier livré à la fascination des plaisirs de Rome, pendant qu'il traversait un étroit défilé, il déboucha tout à coup en face de la mer qui, resplendissante de beauté, s'étendait devant ses yeux. Sur la mer, un seul esquif était amarré, immobile. Cette vue rappela à sa mémoire une histoire de son enfance, vraie ou fausse, peu importait, et il lui sembla que cette scène même du récit se dressait devant lui. Le héros de cette histoire était un jeune et hardi pêcheur de la côte du sud de l'Italie. Une nuit orageuse et sombre, son père et ses frères refusant de s'embarquer sur les flots menaçants, quoique leur barque fût grande et sûre, il s'aventura seul, malgré leurs prières et leurs remontrances, dans le petit bateau de remorque qui suivait la barque. Le vent soufflait avec violence, mais le pêcheur demeura dans sa barque bondissante jusqu'à ce que le soleil se leva, brillant et chaud, sur une mer calme et unie. Vaincu par la fatigue et par la chaleur, il s'endormit. Tout à coup, il fut éveillé par un cri d'alarme jeté de la terre. Il regarda et vit la barque de famille dont l'équipage l'invitait de la voix et du geste à revenir. Mais personne ne faisait des efforts pour le rejoindre. Que pouvait-il désirer ? Que voulait-il dire ? Il saisit ses rames et commença à nager vigoureusement de leur côté. Mais il fut bientôt étonné de voir que le bateau de pêche vers lequel il avait tourné la proue de sa chaloupe se trouvait en arrière. Il vira de bord et se trouva encore du côté opposé. Il avait donc décrit un cercle dont les lignes allaient se retrécissant en spirale. Un horrible soupçon traversa son esprit. Il se débarrassa de sa tunique, saisit ses avirons et se mit à ramer avec une sorte de fureur. Mais le cercle allait toujours se rétrécissant et il s'approchait assez du centre pour apercevoir le tourbillon d'eau couvert d'écume qui bruissait et l'entraînait comme dans un entonnoir fatal. Alors, désespéré, il laissa de côté ses rames et, debout, éleva ses bras vers le ciel. Un oiseau de mer qui passait en criant l'entendit crier aussi haut que lui « Charybde !» Et le diamètre du cercle, en se rétrécissant, avait fini par ne pas mesurer plus d'espace que le bateau. Le pêcheur se coucha sur le canot, couvrit ses yeux et ses oreilles avec ses mains et retint sa respiration jusqu'à ce qu'il sentît l'eau écumante au-dessus de sa tête et que le tourbillon l'entraîna dans l'abîme. « Quelqu'un a-t-il jamais péri de cette façon ? » pensa Torquatus. « Ou est-ce là une simple allégorie ? Si c'est une allégorie, à quoi donc peut-elle faire allusion ? L'âme peut-elle aussi subir la fascination de l'abîme ? Et mes pensées, en ce moment, sont-elles comme un cercle qui m'entoure et qui m'entraîne vers ?»« Fundi ! » cria le muletier, montrant la ville qui était devant lui. Et, peu après, les sabots de la mule résonnaient sur les vastes dalles qui servaient de pavés. Torquatus chercha ses lettres et prit celles qu'il avait pour Fundi. Conduit par son guide à une auberge de médiocre apparence, il le paya largement, ce qui n'empêcha pas le muletier de partir en se plaignant de l'avarice du voyageur. Torquatus demanda le chemin de la maison de Cassanus, le maître d'école. Il la trouva bientôt et remit la lettre. Il reçut la plus cordiale hospitalité, on le traita comme s'il arrivait dans sa propre famille. Il partagea le repas frugal de son hôte qui, pendant cette collation, lui raconta son histoire. Il était né à Fundi et avait établi à Rome une école qui était devenue très en renom et dont nous avons parlé au commencement de ce récit. Mais sachant qu'une persécution était imminente et qu'on avait découvert qu'il était chrétien, il se retira dans sa ville natale où on lui promit de lui confier, après les vacances, les enfants des principaux habitants. Dans ce chrétien qu'on lui adressait, il vit un frère, il parla librement avec lui de ses aventures passées et de ses projets d'avenir. Une idée étrange traversa l'esprit de Torquatus, c'est qu'un jour viendrait peut-être où toutes les confidences de Cassianus lui rapporteraient de l'argent. Il était encore de bonne heure quand Torquatus prit congé de son hôte et, prétextant quelques affaires en ville, il ne voulut pas lui permettre de l'accompagner. Il alla acheter des habits plus convenables, demanda un couple de chevaux et un guide pour l'accompagner, car pour faire la commission de Fabiola, il fallait voyager vite, changer de chevaux à chaque relais et continuer sa route pendant la nuit. C'est ce qu'il fit jusqu'à ce qu'il eût atteint Beauvillet, au pied des collines d'Albanie. Là, il s'arrêta, quitta son habit de voyage et continua gaiement sa route entre deux lignes de tombeaux qui le conduisirent aux portes de la cité, dont les murs contenaient à la fois plus de bien et plus de mal qu'aucune province de l'Empire.